Chapitre 7. Mordre la poussière. On peut toujours plus que ce que l'on croit pouvoir. Joseph Kessel. Chinatown. Aujourd'hui, 10h20. Le bourdonnement de la foule. Des effluves de poissons séchés qui soulèvent le cœur. Le grincement d'une porte métallique. Gabriel sortit de chez le prêteur sur gage et fit quelques pas sur Mott Street. En l'apercevant, Alice émergea brusquement de ses souvenirs. « Vous allez bien ? » demanda-t-il en devinant son trouble. « Ça va, » assura-t-elle. « Alors, la montre de mon mari ?»« J'en ai tiré 1 600 $, » affirma-t-il en agitant fièrement une liasse de billets. « Et je vous promets qu'on la récupérera très vite. » En attendant, je crois qu'on a bien mérité notre petit déjeuner. » Elle acquiesça, et ils s'empressèrent de quitter Chinatown pour les trottoirs plus accueillants du Bowery. Ils remontèrent l'avenue vers le nord en marchant du côté ensoleillé de la grande artère. Dans un passé pas si lointain, cette partie de Manhattan était un quartier coupe-gorge, le rendez-vous des drogués, des prostituées et des sans-abri. Désormais, c'était devenu un endroit accueillant, chic et branché. L'artère était lumineuse et aérée, son architecture variée, ses devantures colorées. Au milieu des immeubles en grès, des petites boutiques et des restaurants, se détachait la silhouette déroutante du New Museum. Ses 7 étages ressemblaient à un empilement de boîtes de chaussures posées les unes sur les autres dans un équilibre précaire. Ses lignes tranchées et la couleur de sa façade, un blanc immaculé pris dans des filins argentés, détonnait dans le décor patiné du Lower East Side. Alice et Gabriel poussèrent la porte du Peppermill Coffee Shop, le premier café qui se présenta sur leur route. Ils s'installèrent dans un box sur 2 banquettes en cuir crème qui se faisaient face. Murs carrelés de blanc, moulures, grandes baies vitrées, parquet en chêne massif, à la fois cosy et raffiné. L'endroit était chaleureux et contrastait avec l'agitation de Chinatown. Transperçant une grande verrière, une belle lumière automnale illuminait la salle et faisait scintiller les machines à expresso derrière le comptoir. Au centre de chaque table, encastrée dans une encoche, une tablette numérique permettait aux clients de consulter la carte, de surfer sur Internet ou d'avoir accès à une sélection de journaux et de magazines. Alice parcourut le menu. La faim lui tordait tellement l'estomac qu'elle entendait des gargouilles courir dans son ventre. Elle commanda un cappuccino et un bagel au saumon. Gabriel opta pour un latte accompagné d'un sandwich Monte Cristo. Portant gilet, cravate et Stetson Fedora, un barista aux manières précieuses leur servit leur commande rapidement. Ils se jetèrent sur le rancard et avalèrent leur café presque d'un trait. Alice dévora en quelques bouchées son petit pain accompagné de saumon, de crème fraîche, d'échalotes et d'aneth. Ayant retrouvé des forces, elle ferma les yeux et se laissa bercer par les vieux airs de blues que diffusait le poste de radio en bois laqué. Une tentative pour faire le vide et se remettre les neurones dans le bon sens, comme disait sa grand-mère.
Nous sommes forcément passés à côté de quelque chose, fit Gabriel en avalant les dernières miettes de son sandwich. De loin, il fit signe au barman de renouveler les consommations.
Alice ouvrit les yeux et abonda dans le sens de son compagnon.
Il faut tout reprendre à zéro. Lister nos indices et essayer de les exploiter. Le numéro de téléphone du Greenwich Hotel, la série de chiffres gravés sur votre avant-bras.
Elle s'arrêta dans son élan. Un serveur à la pilosité abondante venait de tiquer en apercevant les taches de sang sur son chemisier. Elle remonta discrètement la fermeture éclair de son blouson.
« Je propose que nous partagions l'argent », suggéra Gabriel en sortant de sa poche les 1 600 $ que lui avait remis le Chinois.
« Inutile de mettre tous nos œufs dans le même panier. » Il posa devant Alice 8 billets de 100 $. La jeune femme les palpa et les rangea dans la poche briquet de son jean. C'est alors qu'elle sentit un petit rectangle cartonné plié au fond de la poche. Elle fronça les sourcils et le déplia sur la table.
Regardez ça.
Il s'agissait de la souche d'un ticket de consigne, comme on en donne dans les vestiaires des grands restaurants
ou dans les dépôts de bagages des hôtels. Gabriel se pencha en avant. Le ticket portait le numéro 127. En filigrane, les deux lettres G et H, entremêlées, formaient un logo discret.
« Le Greenwich Hotel !»
s'écrièrent-ils d'une seule voix. En une seconde, le découragement s'était envolé.
« On y va !»
lança la jeune femme.
« Mais je n'ai même pas commencé mes frites !»« Vous boufferez plus tard, Kane !»
Déjà, Alice consultait la tablette tactile pour trouver l'adresse de l'hôtel, tandis que Gabriel réglait leurs notes au comptoir.
« Intersection de Greenwich Street et Northmoor Street !»
lui lança-t-elle alors qu'il revenait vers elle. Elle attrapa le couteau qui traînait sur la table et le glissa subrepticement dans la poche de son blouson. Il jeta sa veste sur son épaule. Et ils sortirent d'un même pas. La Honda s'arrêta derrière deux taxis garés en double file. Au cœur de Tribeca, le Greenwich Hotel était une haute bâtisse de briques et de verre qui s'élevait à quelques mètres des rives de l'Hudson.
« Il y a un parking un peu plus bas sur Chambers Street », affirma Gabriel en désignant un panneau.
« Je vais me garer et pas question », trancha Alice. « J'y vais seul et vous m'attendez ici, moteur allumé, pour me ménager une porte de sortie au cas où ça se passerait mal. »
« Et si vous n'êtes pas de retour dans un quart d'heure, je fais quoi? J'appelle la police ?»«
La police, c'est moi !» répondit-elle en sortant de la voiture. En la voyant se diriger vers l'entrée, un portier lui ouvrit le passage en souriant. Elle le remercia d'un signe de tête et pénétra dans le hall. Alice s'avança dans un lobby au luxe discret qui se prolongeait par un élégant salon bibliothèque baigné d'une lumière délicate. Un canapé Chesterfield et des fauteuils en tissu étaient disposés autour d'une grande cheminée dans laquelle se consumaient deux énormes bûches. Plus loin, une verrière laissait deviner une cour intérieure fleurie qui rappelait l'Italie.
« Bienvenue, madame. Que puis-je pour vous ?»
demanda une jeune femme dont la tenue se fondait dans le décor hétéroclite et trendy. Lunettes d'écaille à monture épaisse, jupe pagne, chemisier à imprimé géométrique, franges auburn effilées et aériennes.
« Je viens récupérer un bagage », annonça Alice en lui tendant le ticket de consigne.
« Bien sûr, un instant, je vous prie. » Elle tendit le ticket à son acolyte masculin, qui disparut dans une petite salle attenante pour en ressortir 30 secondes plus tard avec un attaché-case en cuir noir, dont la poignée était entourée d'un bracelet autocollant portant le numéro 127.
« Voilà, madame. »
« Trop beau pour être vrai », pensa Alice en s'emparant de la mallette.
Elle décida de provoquer la chance.
« J'aimerais connaître l'identité de la personne qui a laissé cette valise en dépôt. »
La jeune femme derrière le comptoir d'accueil fronça les sourcils. « Eh bien, madame, je pensais que c'était vous, sinon jamais je ne vous l'aurais donnée. Si tel n'est pas le cas, je vous prierai de bien vouloir me la restituer. »«
Police de New York. Détective Schaeffer !» lança Alice sans se démonter. « J'enquête actuellement sur... »«
Je trouve votre accent bien français pour un policier new-yorkais, » l'interrompit l'employé.
« Montrez-moi votre carte, je vous prie. »«
Le nom du client !»
réclama Alice en haussant le ton.
« Ça suffit, j'appelle la direction. »
Comprenant qu'elle avait perdu le duel, Alice battit en retraite. Serrant la poignée de la mallette, elle parcourut à pas rapide la distance qui la séparait de la sortie et passa sans encombre le barrage du portier. Elle venait de mettre un pas sur le trottoir lorsque le hurlement d'une alarme se déclencha. Une sirène perçante de plus de 100 décibels qui concentra sur Alice tous les regards des passants. Paniquée, la jeune femme prit alors conscience que la sonnerie ne provenait pas de l'hôtel, comme elle l'avait d'abord cru, mais de la mallette elle-même. Elle courut quelques mètres sur le trottoir, cherchant des yeux Gabriel et la voiture. Elle s'apprêtait à traverser la rue lorsqu'une décharge électrique la foudroya sur place. Étourdie, le souffle coupé, elle lâcha la mallette et s'écroula brutalement sur le bitume.